Troisième heure qu'on terminera comme à tous les vendredis avec la super Valérie Roberts qui va venir faire le tour de la scène, on dit artistique, là, mais tu sais, notre premier sujet, ça va être Lupin, la série Lupin sur Netflix, là. Et puis Omar Sy là, qui joue le rôle qui joue le rôle principal, qui est extraordinaire dans cette série là. Alors voyez là, tu sais, oui c'est la scène artistique, mais on le fait d'une manière très comment dire, très accessible. Et puis on se promène, on parle de télé, on parle on parle de cinéma, on va parler de par exemple des activités culturelles pour la fin de semaine. Donc enfin, ça va être la fin de l'émission. Je vais vous poser la question parce qu'il y a un papier ce matin à l'effet qu'il y a des compagnies, il y a des entreprises qui s'apprêtent à ajuster le salaire si les employés déménageaient. Et ça m'a donné l'idée de vous poser la question. Vous avez goûté au télétravail. Bon, en général, quand les gens me parlent de télétravail, ils me disent « moi, je serais favorable à la formule hybride. Mettons 2 jours à maison, 3 jours au bureau ou l'inverse. Là, mais tu sais, pas juste l'un, pas juste l'autre, mais un mélange des deux. Mais mettons qu'on vous donnerait ça. Là, l'employeur vous dirait « regarde, je suis prêt à ce que tu passes, mettons, la moitié de la semaine chez toi, mais je vais te demander de faire un petit sacrifice financier. Là, baisser ta rémunération de 5 à 10 %. » J'ose, là. Est-ce que ce serait acceptable pour vous? Seriez-vous prêt, en échange de pouvoir continuer à travailler depuis la maison, à gagner un petit peu moins d'argent? Vous pouvez déjà commencer à m'écrire si ça vous tente, 98985 ou encore Drainville à commercial 985fm.ca. Boucard Diouf va venir nous parler de la COVID une fois qu'on s'en sera sorti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle aura changé, la COVID? Parce que ce soir, il y a un documentaire qui est diffusé, réalisé par Karina Marceau, sur à quoi ressemblera notre monde une fois qu'on sera sorti de la COVID. Boucard, qu'on aime beaucoup, il sera dans l'émission. Mais d'abord, Luc Lavoie.
Oui, monsieur.
Un petit peu de tour du monde de la COVID, d'abord.
On va commencer rapidement au Québec. 1631 cas supplémentaires, 88 décès de plus. Ça baisse au niveau des hospitalisations, mais M. Legault parlait hier de 1400 comme le chiffre qui était insoutenable. Mm. Ben là, on est à 1426, 27 de moins et 4 de moins aux soins intensifs.
Donc, on est encore très loin là, d'un point où on pourrait relâcher. Là, hein?
Je pense que ça vient confirmer ce pourquoi il nous a préparé mentalement hier, n'est-ce pas? Mm. Alors, ce qui est intéressant, ben, en Ontario, 2662 nouveaux cas, 87 morts. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce point-ci, c'est 250 226 Ontariens qui ont reçu un diagnostic positif depuis le début de la crise. Ça veut dire essentiellement le même chiffre qu'au Québec. Tu te souviens, dans la première vague, que l'Ontario était bien, bien, bien mieux qu'au Québec. Mais là, c'est pareil. On s'est rejoint, tout le monde se rejoint. À l'échelle du fédéral, ben, je veux revenir mais très brièvement sur le premier ministre Justin Trudeau qui a indiqué pour la première fois vendredi dans son point de presse que son gouvernement envisage d'imposer la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs entrant au pays. Mm. Alors, probablement qu'on s'en va vers une sorte de solution comme celle-là. D'ailleurs, en Belgique, on vient juste d'interdire à la population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi et jusqu'au 1er mars.
Oui, mais Luc, si tu me permets, moi, hier, je parlais avec du monde à Ottawa qui m'ont dit l'idée de mettre en quarantaine les voyageurs qui reviennent, c'est très compliqué sur le plan logistique. Et l'option qui était privilégiée, c'était celle d'interdire les vols. Et je te dis pas là, que c'est ça qu'ils ont décidé. Là. C'est sur la table du comité COVID. Ils sont plusieurs ministres autour de la table. Sauf que le problème avec l'interdiction des vols, c'est qu'ils se demandent s'ils peuvent l'imposer à l'intérieur des lois actuelles. Et là, les options qui sont sur la table, c'est si on voulait interdire les vols non essentiels, est-ce qu'on serait obligé d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence?
La loi sur les mesures de guerre, comme on l'appelait autrefois.
Voilà. Et si la réponse est oui, évidemment, là, écoute, est-ce que Trudeau irait jusque-là? Moi, je ne crois pas. L'autre possibilité, ce serait de voter une loi spécifique pour permettre l'interdiction des vols non essentiels. Et à ce moment-là, le Parlement fédéral revient lundi prochain. Le gouvernement, à ce moment-là, devrait déposer un projet de loi et souhaiter la collaboration des oppositions pour faire voter une loi donc qui interdirait les vols non essentiels. En d'autres mots, tu as deux options. Ou tu interdis les vols non essentiels, où tu forces les voyageurs à revenir, à aller en quarantaine dans un hôtel, par exemple. Et ils n'ont pas tranché encore là-dessus. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que hier soir, à la sortie du comité COVID, là, il n'y avait toujours pas tranché la question. Il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement sur la bonne voie à suivre.
Bon, on devrait le savoir la semaine prochaine, alors.
Exactement.
Je voulais dire un mot à propos des propos tenus ce matin par Boris Johnson, le premier ministre britannique. Il a annoncé que le variant du nouveau coronavirus détecté dans son pays au départ et qui est déjà présent dans une soixantaine d'autres pays est non seulement plus contagieux, mais aussi plus mortel. Et je cite ses paroles, il semble également maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant peut être lié à un degré plus élevé de mortalité. Alors c'est très, très inquiétant parce qu'il en circule probablement déjà au Québec. Enfin, pour les gens qui rêvent encore d'aller dans le sud malgré tout ce qu'on dit, puis ouais. Que c'est le Mexique qui est leur choix, là,
ouais.
Ben, je vous rappelle que c'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde. Hier, 1803 nouveaux décès. Ça porte le bilan à 146 174 morts. Alors écoute, s'ils veulent aller faire des vacances, parce qu'on avait une dame plus tôt cette semaine en entrevue qui avait été trois fois à l'étranger, puis entre autres le Mexique, puis qu'elle disait qu'on était mieux là-bas, tout ça, là, j'y repenserai.
Oui. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est
parlons sûr. Des États-Unis, Bernard.
Oui, parlons des États-Unis, parce que là, la procédure de destitution se poursuit, là, hein? Ça s'en va au Sénat,
si tu,
là. Hein?
Si tu me permets, je vais brièvement parler de COVID et on va y revenir
à la destitution. Oui. Très bien. Oui.
Alors, hier, le président Biden a rendu public sa stratégie, un document d'à peu près 200 pages, très détaillé, et pour mettre en place le titre « Comment vaincre, comment augmenter la vaccination et tout le reste ». Et il a dit au passage qu'il fallait se préparer à l'idée qu'on aurait bientôt 500 000 morts aux États-Unis. Et hier seulement, il y en a eu 4 440.
Est-ce que c'est leur record, ça, 4440?
Parce que pense que non.
Oui, parce que plus tôt cette semaine, il me semble que tu avais un chiffre qui n'était pas loin de ça.
Je pense que c'était 4800 qu'on avait cette semaine, plutôt.
Okay.
Maintenant, l'implication du fédéral, tu sais que sous l'administration Trump, on livrait les vaccins aux États, puis les États s'organisaient avec leurs problèmes.
Ouais.
Là, on a déclenché une opération de niveau fédéral, FEMA, qui est l'organisme qui est chargé de coordonner les mesures d'urgence. FEMA vient de recevoir l'ordre présidentiel de bâtir 100 super centres de vaccination un peu partout au pays. Et il y a une autre aspect.
Luc, comment il s'appelle ton chat encore?
Ah, tu l'entends, non?
Comment il s'appelle?
C'est ça le télétravail.
Non, comment il s'appelle encore?
Queenie.
Mais écoute, tu diras bonjour à Queenie. Je pense
Queenie, qu'elle Bernard te salue. Hop, là, elle est montée sur moi, Bernard. Ça va rendre la chronique encore plus...
Distrayante. Alors, excuse-moi, parce qu'il fallait la saluer, là, parce que là, les auditeurs se demandaient, c'est qui ça? Alors, c'est Queenie.
C'est Queenie.
Bon, alors on dit bonjour à Queenie. Donc, 100 super centres de vaccination aux États-Unis.
Oui, mis en place par l'organisme fédéral FEMA. Et là, ce que je trouve intéressant, parce que ça ressemble à la façon de faire des Américains, Walmart, Starbucks, Amazon, Costco se sont tous mis à table. Et par exemple, Walmart va offrir bientôt la vaccination dans ses 5000 magasins aux États-Unis. Starbucks aussi. Amazon va construire des centres de vaccination. Costco va offrir les vaccins. Alors, ça va aller en s'accélérant. Maintenant, parlons de la politique politicienne.
Ben oui.
Alors, l'acte d'accusation voté par la Chambre des représentants sera déposé au Sénat formellement lundi, ce qui va déclencher le procès en destitution du président.
Destitution rétroactive.
Rétroactive, quelle bizarre d'affaire.
Oui.
Je comprends pas.
Oui.
Pendant ce temps-là, ben, la vie normale semble avoir reprise à Washington. Les ministres de M. Biden sont maintenant, un par derrière l'autre, en train d'être approuvés par le Sénat, comme l'exige la Constitution américaine.
Et comme les démocrates maintenant ont le contrôle du Sénat, ça va aller vite. Ouais.
Ça va très, très vite à l'heure actuelle. Alors voilà, on est dans une sorte de... retour à une sorte de normalité. C'est comme ça que je l'appellerais.
Voilà. Je veux juste te dire, Luc, depuis qu'on a parlé là, de ta candidature pour être le futur gouverneur général, tu as eu beaucoup de votes. Ouais. Honnêtement, Luc, c'est dommage que la fonction ne soit pas élective. Parce que je pense que tu aurais des chances. C'est de valeur que le GG, la GG, soit nommée par le PM, parce que je pense qu'en élection, tu serais... Ta candidature serait une redoutable candidature. Puis moi, je ferais une cabale d'enfer pour toi, mon gars, là. Puis je te le dis, là, t'as le vent dans le dos. C'est formidable. Puis là,
ben, t'acceptes d'être mon
Sans aucun doute. Puis là, sais-tu quoi? Je pense qu'avec Queenie, on a un avantage de plus. Écoute, tous les amis des animaux voteraient pour toi. Ah. Là, je veux juste te dire, parce que c'est un grand monsieur que j'ai beaucoup aimé. Je pense que tu as dû le connaître. Jacques Moisan, l'ancien présentateur des informations.
Ben oui, c'est un ami à moi. Oui.
Bon, ben écoute bien, il nous a écrit un courriel. Alors, vous le connaissez, Jacques Moisan. Il a beaucoup contribué à donner au service de l'information de TVA la crédibilité qu'il a maintenant. Là, ça a été vraiment un bonhomme très important. Il a écrit ceci. « Salut Luc, salut Bernard. Juste pour vous dire que j'ai été invité par l'entourage de Stephen Harper en 2015 à poser ma candidature pour le poste de lieutenant-gouverneur. J'étais comme vous, arrêté au fait que la fonction est pour le moins désuète. Mais elle existe et il faut que quelqu'un assume la fonction. Alors pourquoi pas? J'ai considéré l'offre comme un honneur. J'ai suivi le processus jusqu'au bout. Je m'y suis préparé très sérieusement, surtout après l'attitude inacceptable de Lise Thibault que j'aurais souhaité faire oublier. Mais ma candidature n'a pas été retenue. Faut dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà 73 ans. Voilà pour la petite histoire. Bonne journée, Jacques Moisan. Et c'est... Monsieur Michel Doyon, donc, qui a été nommé lieutenant-gouverneur du Québec à ce moment-là, en 2015. Si je ne m'abuse, c'est toujours lui qui occupe la fonction. Là, oui. Alors, voilà pour la petite histoire, Luc, tu vois. Jacques Moisan, donc, il a été considéré très sérieusement pour la fonction.
J'ai travaillé longtemps avec Jacques Moisan. C'est un grand gentleman, un gars formidable.
Oui, absolument. Je n'ai que des beaux souvenirs. Ben Luc, je te souhaite un bon week-end.
À toi aussi. Hein? Bon week-end à tous nos auditeurs.
Donne
aussi
un petit bisou à Queenie, puis on se reparle lundi.
Salut.
Salut. Après la pause, Boucard Diouf, la réalisatrice Karina Marceau, sur le monde d'après la COVID. Qu'est-ce que la COVID, dans le fond, va avoir changé durablement quand on va sortir de cette pandémie?